Voilà, nous continuons le daf Samer Bet Amud Alef. On est à une dizaine de lignes du haut de la page. Rabbi Chama bar Rabbi Hanina. C'est encore une histoire du même genre que ce qu'on a vu au sujet de cette règle qu'on a le droit de se servir les ktsiot, les restes de figues sèches qui sont restés dans les espaces où on travaillait, on faisait ces étalages de figues sèches pour les sécher et les mettre en bloc, etc. À partir de quand? C'était à partir de chez Oukpelou, Rov Amaktsour. Si le Rov des producteurs ont terminé l'opération des figues, ils ont plié le canif, ils l'ont rangé. C'est le symbole que cette opération est terminée. Ce n'est pas le canif pour cueillir, on avait vu qu'on cueillait à la main. Mais c'est le canif avec lequel on entaille les figues ou bien on façonne le bloc pour le loger dans son moule, etc. Alors, voilà, c'est que les gens, certainement, ont rendu efker. Ils n'ont pas l'intention de revenir récupérer. Tu peux prendre. C'est moutar mishum gezel, et c'est pas tour minama asrot. On a déjà vu une histoire à ce sujet, un peu plus haut, avec Rabbi, Rabbi Yossi, bar Rabbi Yehuda. Rabbi Chama, bar Rabbi Chanina, ikla le'ahu atra. On raconte que lui, il est rentré dans cet endroit, une ville, Bisman Shuk Pelu Rav Amaktsuot. C'était à cette période de l'année, précisément. Havaka Achil y mangeait, puisque la règle nous dit qu'on a le droit. Yaïv le Shamay, il a servi à son Shamash, Lo Achil, il n'a pas voulu manger. Amar le Echol, mange. Car Amar li Rabbi Shmael va Rabbi Yossi. C'est ainsi que m'a enseigné Rabbi Shmael va Rabbi Yossi. Mishum aviv au nom du Tana Rabbi Yossi que huk pelu rava maktsuot mutarot mishum gezel upturot minamas. Donc cette histoire, c'est encore retrouver une source supplémentaire par rapport à ce principe qu'on a vu déjà dans une braïta plus haut. Et on le cite maintenant au nom de Rabbi Yossi à travers cette histoire. Point. Autre histoire, Rabbi Tarfon ashkeche aviv avra bizman shuk pelu amaktsuot dekahil. Rabbi Tarfon, il l'a trouvé, ça veut dire il l'a surpris, cet homme-là, le propriétaire d'une exploitation de figues, a surpris Rabbi Tarfon au moment Bisman Shukfulu Amaktsot, dans cette période de l'année, en train de kahin, en train de manger. Quoi, il s'est permis de me prendre des figues? Et alors il était furieux. Achate Besaka, il a pris Rabbi Tarfon dans un sac, un gros sac, Véchaklé, comme il ferait les brigands, il l'a pris, Véamteye les Mishdeye Benara, et il le transportait pour le jeter au fleuve. Imaginez un peu. Donc il est emprisonné dans ce sac, certainement, et le gars, certainement, qu'il avait de la poigne, et il avait compris Rabbi Tarfon qu'est-ce qu'il attendait. Amar, Rabbi Tarfon, il a murmuré, Oilo le Tarfon chez Zéorgo. Malheur à Tarfon que celui-là s'en va le tuer. Parce que Tarfon, c'est son prénom, il va pas dire Rabbi Tarfon. Il dit Tarfon, c'est lui-même qui parle. Mais c'était une célébrité, Rabbi Tarfon, à l'époque. Shama ou Gavra, cet homme a à peine entendu le nom, Shavke Veharak. Il l'a abandonné, il l'a laissé et il s'est enfui. Pourquoi il s'est enfui? Par honte? Je ne sais pas, peut-être. Qu'il aurait inquiété Rabbi Tarfon, il aurait fait peur ou qu'il allait le tuer, quelque chose, je ne sais pas, peut-être, il faut voir. Voilà, c'est la fin de l'histoire, maintenant il nous faut la commenter. Amar Rabbi Avahu, Shum Rabbi Chanan, Ben Gamliel. La Moraïm précise que Kol Yamav Sheloto Tzadik. Rabbi Avahu l'Amora nous dit au nom d'un Tana, témoignage, Kol Yamav Shaloto Tzadik, ce Tzadik Rabbi Tarfon, tout le reste de sa vie, Haya Mitzter al Davarze. Il avait du Tzahar, ou peut-être il se faisait du Tzahar, faut voir si ça ne veut pas dire qu'il jeûnait ou des choses comme ça, souvent Mitzter veut dire ça. Sur cette chose, ça veut dire quoi? Sur le fait d'avoir mis en avant Kavod à Torah. Il a sauvé la situation par le mérite de son kavod à Torah en se disant « Oili, shenishtamashti, bekitra shel Torah. » Malheur à moi, pour avoir quitté du Kavod HaTorah. Ça, c'est témoignage sur Rabbi Tarfon, comment, même s'il a eu la vie sauve, d'un autre côté, il a eu amer tout le reste de sa vie pour avoir usé du Kavod HaTorah. Comme on va voir, c'est une notion très importante de tout faire pour éviter de profiter du Kavod HaTorah, même quand on est dépositaire de ce Kavod tel que Rabbi Tarfon. Tout celui qui use du Kavod HaTorah pour ses intérêts, Nekar mina olam. Mishtameh, je redis, il s'en sert. S'en servir, ça veut dire pour rechercher des intérêts personnels. Comme ici, c'était pour sauver sa vie. Si le Chacham, il use du Kavod HaTorah pour le Kavod HaTorah, c'est autre chose. Mais si c'est pour son intérêt personnel, là non, c'est très grave. Nekar mina olam, il trépasse du olam hazé. Kal vachomer, on l'apprend par kal vachomer. Quel est ce kal vachomer, dit Rabbi Yochanan? Uma Belshazzar, je nishtamesh bikle kodesh. Si déjà Belshazzar qui s'est servi des kelim du Bet Amigdash qu'ils avaient pillé lors du Khurban du premier Bet Amigdash, de tels que les kodesh et nasuchol qui sont devenus profanes, chez Neymar, comme il est dit dans un pasugu, Baouba pritzim vechil elua. Des rebelles sont venus profaner, ils ont mis un sac tout le Bet Amigdash. Et donc, il y a cette notion que chil elua, une fois qu'ils ont été profanés, ils s'en sont servis pour boire dedans, kivan shepartum nasu chol, ils sont devenus chol. Et eux s'en sont servis, nekar mina olam. On a vu que ça n'a pas raté. Ils ont trépassé, ils sont morts, dirent-ils. Comme il est dit dans un pasouk, Bab Elilia, la même nuit qu'il avait utilisé les Kelim Bet Amigdash, Katil Belshazzar, il est mort Belshazzar. Ce roi de Belshazzar est mort, et parce que lui et les siens ont bu dans des verres, des Kelim de Klisharé du Bet Amigdash. Comme c'est raconté aussi dans Maseret Megillah plus largement. En tout cas, on voit que être mishtamesh de ce qui est sacré pour ses intérêts personnels, ça peut coûter cher. Alors, kal vachomer, amishtamesh bekitra shel Torah, celui qui utilise le kavod haTorah, c'est ça la couronne de la Torah. Shehu kayam leolam, c'est comme ça la version du bar. Shehu kayam leolam. Kavod HaTorah, c'est quelque chose, c'est une valeur qui est éternelle, qui d'aucune manière ne peut s'arrêter ou décliner. Alachat kam avec ama, plus forte raison combien que il est ouvert mina olam, nekar mina olam, point. Donc Rabbi Tarfon, il a redouté d'avoir utilisé, et toute sa vie, comme on a vu, il l'a regretté, il a eu du tsar. Rabbi Tarfon demande la Gemara. Donc ça, c'est un commentaire. Rabba Baba Khanam Abu Hanan, c'est une mémra qu'on a greffée ici dans le récit. On a fini avec le récit plus haut. On avait ce principe qui apparaît dans le témoignage de Rabbi Hanania Ben Gamliel, que Rabbi Tarfon s'en évolue toute sa vie. Alors on amène les sources à ce sujet, les sources que nous tenons à ce sujet de Rabbi Hanan. Puis maintenant, la Gemara revient sur l'histoire avec une recherche pour mieux comprendre. Rabbi Tarfon, qui vint de qui Achille? Puisque quand il mangeait des oukfelou, roba maktuot hava, c'était au moment où la plupart des maktuot étaient déjà rangés. Ça veut dire qu'il était dans son droit. Alors amaitzare à Ougavra, pourquoi cet homme l'a fait souffrir? Pourquoi il l'a menacé de miner? Le Roche explique certainement, les gens qui étaient producteurs connaissaient les règles. On sait très bien qu'à un moment donné dans l'année, une fois qu'on a fini l'opération des figues, ça devient permis. Alors pourquoi il lui a fait ce tsar? Réponse, Mishum, Deahou, parce que cet homme-là, Havu ganvele a inve kula shota. On lui volait ses raisins toute l'année. Il a subi des vols dans ses vergers tout au long de l'année. Bekivan de Ashkere Rabbi Tarfon. Et quand il a surpris Rabbi Tarfon, oh, Savar, il s'est dit, Hayenu de ganvan, c'est lui le voleur, c'est lui qui nous vole tout le temps. Il n'est pas allé se dire, ah, il est mignon, il prend et il a le droit. Non, il a dit, s'il se permet, là, maintenant, c'est que c'est une habitude, c'est lui le voleur qui m'a toujours volé. Et donc, il croyait faire sa justice maintenant en voulant le tuer, etc. Ça veut dire en tout cas, bien sûr, c'est injustifié d'aller tuer quelqu'un parce qu'il nous vole, même si c'est vraiment un voleur. Mais en tout cas, on comprend pourquoi il pouvait lui en vouloir. Demande à Gmara Yari, si c'est comme ça, ça cause problème. Amaitir Nafshem, pourquoi Rabbi Tarfon, il a eu de la peine et il s'est fait souffrir toute sa vie pour avoir utilisé le Kavodat Torah. Mais c'était son droit. On a le droit d'utiliser Kavodat Torah dans de telles circonstances. Quelle est l'explication? Le Rav nous dit. Si jamais il aurait dit, mais j'ai le droit, à ce stade de l'année, c'est permis. Et que cet homme ne voulait pas entendre parler de cette loi. Ça veut dire, déjà, il fallait l'informer. Première chose, il fallait lui dire, c'est moutard, qu'est-ce qu'il y a? Et même s'il ne veut pas entendre parler de cette loi, alors, il fallait payer. Je t'ai mangé combien? 1 kilo? Je te rembourse 1 kilo. On est en règle, voilà. Donc voilà ce qu'il aurait dû faire. Pourquoi il va utiliser le Kavodat Torah? Ça, je comprends qu'il a, sans vouloir, d'avoir voulu se faciliter en utilisant Kavodat Torah. Et voilà. C'est comme ça qu'il a soldé la situation. Mais si jamais on l'a soupçonné d'être un voleur de tout temps. Donc un voleur de tout temps, c'est quelqu'un qui est endetté sur tous les raisins que l'autre il s'est fait voler, il va falloir lui payer aujourd'hui. Alors ça, c'est injustifié que Rabbi Tarfon y paye. Donc il avait le droit de se faire reconnaître comme Rabbi Tarfon et que l'autre, il lâche prise. D'accord? Ça, c'est l'argument de la question. Si c'était que pour ces quelques figues, il suffisait de les payer, ça règle le problème. Pourquoi tu fais valoir ton kavod? Ça coûte quelques sous. Mais si on te soupçonne d'être le voleur de tout temps et que la note est salée et qu'il n'y a aucune raison que tu payes une telle note, ben, il n'y a pas de problème. Tu étais dans ton droit de dire « je suis Rabbi Tarfon, arrête ». Et donc, pourquoi il s'en est voulu, Rabbi Tarfon? C'est la question. Et Aris, il s'est ainsi à Maïtir Nafshé. Pourquoi il a eu de la peine, Rabbi Tarfon, toute sa vie? Réponse, Mishum de Rabbi Tarfon Ashir Gadolaya. Parce que Rabbi Tarfon était un riche, richissime, ve'avale le faiso bedamim. Il aurait mieux fait de trouver un arrangement avec de l'argent, même si on le soupçonne d'être le voleur de tout temps et qu'il va falloir maintenant payer une note salée, ben, il avait les moyens. C'est ce qu'il aurait dû faire plutôt que de faire valoir son Kavodat Torah. C'est pourquoi il s'en est voulu. Mais s'il n'était pas riche, alors son devoir, c'était, il avait tout à fait le droit de faire valoir qu'il était Talmid Chacham et pour qu'à ce titre, il soit épargné. Alors le Rav nous dit ici que cet homme-là n'a pas voulu démordre. Même s'il savait que Rabbi Tarfon, c'est un Talmid Chacham, il le soupçonnait encore. Il se disait, c'est lui qui a dû me voler. Et donc, c'est pas comme ça que les soupçons sont levés. Sauf qu'il a renoncé à intenter à la vie de Rabbi Tarfon juste pour Kavod Torato, c'est tout. Dans ce genre de situation, il y a un problème, comme on le dit ici, de Mishtamesh Bekitra Shel Torah. Mais si en te démasquant, l'autre, il va être convaincu, tu lui dis « je suis Ravintel », il est convaincu que c'est pas toi le voleur. Si ça va le convaincre, c'est pas sourd. Tu as le droit de te démasquer. Et ce n'est pas Mishum Kavod HaTorah, c'est que c'est ta manière de le convaincre de ton innocence. Ça, c'est permis. Comme ça, il dit le Ran. Et il dit qu'on va voir différentes choses qui vont être permises un peu plus bas dans la Gemara. Ok, il faut voir un peu plus en finesse, mais c'est à peu près ce que le Ran dit. Tanya dans une braïta. Léa va être Hashem Elokecha. C'est ce que Moshe Rabbeinu ordonne aux Bnei Israël comme devoir, que d'aimer Hachem, d'écouter sa voix, ça veut dire d'être à l'écoute, ou le Dov Kabo, et de s'attacher à lui. Alors maintenant, la Gemara nous fait. À partir de cette braïta, pardon, de ce pasouk, une leçon. Shelo yomar adam ekra Un homme ne doit pas se dire, je vais apprendre les textes pour qu'on m'appelle Chacham parce que j'ai des connaissances. Et je vais apprendre les Torah Shebaal Peh chez Kouni Rabbi. Oui, je peux être maintenant quelqu'un qui peut enseigner parce que le Mikra, d'accord, les enfants l'apprennent. Je ne m'appelle pas encore Rabbi. Je m'appelle un connaisseur, très bien, Chacham. Mais pour être Rabbi, ça veut dire qu'il enseigne, il retransmet. Il faut connaître la Torah orale. Alors je vise ce titre. Non, ce n'est pas le but. Ou bien il va dire, « Ashanen, je vais affiner mon étude, Sheye Zaken Veshev Yeshiva. » Pour être Zaken Yoshev Yeshiva, c'est celui qui est Moré Oraha et qui sait faire la part des choses entre une Mishnah et une Braïta, c'est-à-dire le Talmud. Et à ce moment-là, j'atteindrai tel titre. Non. « Elar Lemad Me'ava, Vesof Akavod Lavo. » Il faut étudier. « Me'ava », ça veut dire par amour, pas pour des à côté, des finalités secondaires, sauf un kavod là-bas, le kavod viendra tout seul, finira bien par venir le kavod. Ne fais pas ça pour le kavod viendra de lui-même. Shenemar, koshrem aletzveotecha, kotvem alluach libecha. D'une part, il est dit dans Michelet, les sujets de Torah, attache-les sur tes doigts, c'est-à-dire fais corps avec la connaissance de Torah. Grave-les sur les tables de ton cœur. Et il est dit, Derachia d'Arkenoam, et il est dit, Veomer, Etzraim, la machazekimba, vetomremoucha. Les voies de la Torah sont toutes Noam, conduisent à Noam. Alors couramment, ça s'entend que ça établit. Ça établit une ambiance paisible parce que toutes les lois de la Torah sont de cette nature-là, à établir une ambiance apaisée, paisible, épanouie pour l'individu, pour une famille, pour une communauté, pour une nation, etc. C'est vrai. Mais j'ai le sentiment que dans cette Gemara, ce pasouk est repris comme Noam à l'adresse du Talmid Chacham, qu'on lui fait honneur. Et si ce n'est pas ça la preuve, alors c'est au moins la suite, comme le Rav nous le fait ressentir, c'est du pasouk suivant. Etzraimi la machazikimba. Vetomchea meushar. La Torah, c'est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, qui s'y attrapent, qui s'acharnent à l'étude. Vetomchea, ceux qui la soutiennent, qui veulent mettre en valeur la Torah. Alors meushar, ils sont dignes de louange, ils sont félicités, ils sont glorifiés. Cette notion de Meouchar, ça veut dire que tous sont mis à cher au terme dans le sens de félicitation, dans le sens de vénération. Et donc, ça veut bien dire qu'au rendez-vous, il y aura le Kavod à Torah. C'est ce qu'on a annoncé, sauf à Kavod Lavo. Mais toi, tu t'efforces d'étudier la Torah par attachement à la Torah. Attache-les à tes doigts, grave-les sur ton cœur, fais corps avec l'étude, pas pour aucun but, mais que le Kavod viendra tout seul. Ton prêt à Meouchar, d'accord. Si t'es un quelqu'un qui s'attrape à la Torah, qui s'acharne à elle, et qui est au maître la Torah, qui veut la porter, l'élever, alors tu verras qu'au final, tu seras Meoucha, tu seras vénéré de tous. Très beau, mais je ne comprends pas. Si on te dit d'étudier sans rechercher le Kavod, pourquoi on a besoin, Birklal, de mentionner sauf à Kavod, l'avou? Comme si tu es partagé, on a besoin de te rassurer, tu sais, le Kavod viendra, tu l'auras au rendez-vous. Ne le recherche pas, mais tu l'auras. Pourquoi on a besoin de me dire, si on me dit ne recherche pas, ne recherche pas, c'est tout. C'est pas ce qu'il faut rechercher. Est-ce qu'un Talmid Chacham, une fois qu'il a eu le Kavod, il doit s'en réjouir? Ah, il doit pas étudier pour le Kavod, pour avoir un titre. Mais quoi, une fois que le Kavod est là, alors il peut le savourer? C'est absurde, une chose pareille. C'est sûr que c'est complètement faux. Un Chacham ne savoure pas le Kavod pour lui-même. Peut-être qu'il le prend pour le Kavod à Torah qu'il représente. Pas pour sa personne propre. Comment comprendre? Il me semble que faudra se dire que si j'étudie pour le Kavod, pour avoir un titre, c'est une chose. Ça, c'est un Kavod orgueilleux. Ça, c'est pas bon. D'après le Maharsha, c'est même pas moutard En tant que mitor shelo lishma balishma, on connaît un principe qu'on étudie Torah shelo lishma au début pour un jour arriver à Torah lishma. C'est comme ça le processus. Un enfant, si tu le motives pas avec une sucette, il va pas bien étudier. Motive-le et il va prendre goût. Comment il va prendre goût? Parce qu'il aura goûté à l'étude. Mais s'il n'y a pas la sucette, il goûtera jamais à l'étude. Après, tu l'as motivé d'âge en âge. Comme ça, il dit le Rambam quelque part. Il grandit, la sucette, ça ne lui parle plus. Promets-lui quelque chose d'un peu plus. Bien sûr, tu mets la barre plus haut. Tu ne lui dis pas, apprends pendant une heure, deux mishnayot. Tu lui dis, apprends un perek ou une maseret, t'auras ceci, et ainsi de suite. Jusqu'à que son sérel est mitrazek. L'enfant, il a une maturité, il comprend la valeur de la Torah. Il voit ce que la connaissance elle-même, il a pris goût. Et lui-même, il a envie, il a accroché pour sa vie avec la Torah. On n'a plus besoin de le motiver. Ça devient la Torah lishma. Mais commence par Shelo lishma. Maintenant, quelle est cette motivation? Eh bien, d'après le Maharsha, étudier Torah. Alors, même quelqu'un, par rapport à soi-même, il peut s'encourager comme ça. C'est lav davka le père et le fils. Maintenant, si je m'encourage en me disant, je vais devenir un rave, un chacham, ceci, cela, est-ce que c'est bien? D'après le Maharsha, il me semble que non. Le Maharsha, quelque part, il dit que le shem kavod, c'est pas soul. C'est pas un shelo lishma valable. Shelo lishma valable, c'est par exemple pour gagner de l'argent, pour gagner la sucette, etc. Le shem kavod, dans le Maharsha, ça s'entend que c'est pas bon. Je peux pas trop rester sur ce point, mais en tout cas, ici, clairement, c'est écrit, c'est pas comme ça qu'on aborde la Torah. Alors, oublie, ne le fais pas pour ça. Mais le sof à kavod lavo. C'est ce que je voulais expliquer, ce kavod qui finalement viendra, c'est pas le même. Dans la mesure où c'est pas le kavod que t'as recherché, c'est pas le kavod orgueilleux, c'est pas le kavod pasoul qu'il faut bannir. Que d'après le marcha, faut même pas en faire un shelo lishma. Non. C'est un autre kavod. Parce que le chacham, il peut se dire, et si j'étudie et je serai incognito toute ma vie, alors comment je vais pouvoir faire moi, avec la Torah, ce que je dois enseigner, influencer, etc. Sans kavod, un homme, il est dépourvu, il ne peut pas faire grand-chose de sa Torah. Le but de la Torah, ce n'est pas que pour lui, c'est de la retransmettre et de la faire valoir et d'être une référence et que les gens suivent, etc. Et ça, ça passe aussi par le kavod du chacham. Alors, c'est ce qu'on lui dit. T'en fais pas, t'inquiète pas pour le kavod. Réfléchis pas, tu l'auras de les façons. Pas pour toi, pour savourer le kavod de manière orgueilleuse. Ça, oublie, ça, c'est évident. Ça commence même pas, ce kavod. Ne réfléchis pas à cet objectif. Si c'en est un, si c'est utile, s'il y en aura besoin, Hachem te le donnera de les façons. Il me semble comme ça, on peut comprendre ce passage. On raconte l'histoire qu'il y avait quelqu'un qui était toujours Boreach Mina Kavod, comme c'est écrit dans Mishnah Avot. Et celui qui est Boreach Mina Kavod, Akavod, Rodef Acharav, c'est le Kavod qui lui court après. Et alors, et toute sa vie, il disait, j'étais Boreach Mina Kavod. Et il déplorait qu'il n'a jamais eu le Kavod. Jamais le Kavod l'a rattrapé. Il allait voir le Chafetz Chaim. Comment? Mais la Mishnah dit que celui qui fuit, il fuit les honneurs, et bien les honneurs le rattrapent. Moi, les honneurs ne m'ont jamais rattrapé. Rabbi Tzadik m'a dit, oui, mais toi, quand tu fuis, tu regardes derrière, est-ce qu'il te poursuit? Ça veut dire, c'est pas honnête, c'est pas ça, fuir. Fuir, c'est vraiment ne pas vouloir. Fuir sincèrement les honneurs. Le kavod, je n'en veux pas, sincère. Après, si Hachem lui donne, peut-être que... Passons maintenant à la suite. Rabbi Lezer, Rabbi Tzadok, Omer, on est toujours dans cette même braïta. Assez dvarim leshem paolam, vedaber davar, vedaber baem lishmam. Fais les mitzvot, les choses qu'il faut faire selon la Torah, donc les mitzvot, fais-les pour celui qui les a ordonnées. Hachem, littéralement paolam, ça veut dire le créateur, d'après le roche. D'accord? Celui qui a tout créé, l'irvodo, alors, kol paal Hachem les mains, neyou, fais les choses que tu dois, donc les mitzvot, leshem, le créateur. Et parle les paroles de Torah, les Shem elles-mêmes. C'est même pas écrit les Shem Hashem. Torah Lishma ici, Raphaël de Valojin se fonde sur ce roche qu'on a devant nos yeux ici, et il martèle sur ça que Torah Lishma, c'est surtout, surtout Torah Lishem Torah. Lisons la phrase du roche, C'est ici dans le commentaire en bas. Vedaber ba'en ishman, je lis dans le roche. Kol dibur chauma sa'acha bedivre Torah. Tout l'échange, les paroles de Torah. Yiyel shem a Torah. Que ce soit les shem Torah. La vocation, c'est comprendre Torah. Kedelida le'avin le'osif lekach u'pilpul. Pour connaître, comprendre et rajouter encore et encore des l'écart, ça veut dire des choses qu'on intègre, des nouveautés, et pile poule qu'on arrive encore mieux à affiner, etc. Velo le canter ou l'itgaot. Et pas pour autre chose que ça. Alors des fois, autre chose, ça peut être négatif, comme le canter ou l'itgaot. En tout cas, hein, Torah l'ishma, c'est ça. L'ishma à Torah elle-même pour la connaissance de la Torah. Et automatiquement, si on est attaché à la Torah, c'est ça qu'on recherche, on est attaché avec Hachem, puisque la Torah, elle est liée à Hachem, comme c'est marqué dans le Zohar, que Bnei Israël et la Torah et Hachem, c'est une même entité. Ça veut dire la Torah nous relie à Hachem. Tu es relié à la Torah, elle est kadosh, c'est suffisamment kadosh pour te relier à Hachem. Les mitzvot, faut que tu penses pour l'honneur d'Hachem. Le limud Torah, tu penses pour limud Torah, Torah et Kdosha, tu t'es relié à Hachem automatiquement. Ensuite, c'est toujours Rabbi Elazar Barbet Sadok qui poursuit, n'en fais pas une couronne l'itgadel bahem pour te faire honneur. N'en fais pas une hache pour labourer. Les Rishonim traduisent, ça veut dire n'en fais pas un instrument pour la parnassa. Mais kalvachomer, et c'est un kalvachomer. Ma bel shotzar shalom ishtamel shalabik li kodesh inasu klechol. C'était l'enseignement du Hamora, Rabbi Yochanan, qu'on retrouve ici dans une braïta au nom d'un Tana, en référence à Belshazzar, qui est mort parce qu'il a utilisé les kelis sacrés du Beth Amikdash. Alors, Kol Sheken, celui qui... Voilà. Quel est ce Kalvachomer? Le Hamora l'a développé, le Tana l'a abrégé. Mais on le comprend comme le Hamora nous l'avait commenté. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ne pas utiliser la Torah pour la Parnassa? Est-ce que ça veut dire littéralement que c'est interdit? C'est l'approche du Rambam bien connue dans son commentaire sur Pirkei Avot. Parce que là-bas aussi, il y a ces citations de la Mishnah, là-bas, ces deux phrases qu'on trouve là-bas dans la Mishnah. Ou bien, ça veut dire qu'il ne faut pas en avoir l'intention et la finalité quand tu étudies. Tu ne dois pas étudier pour cet objectif. Mais si un jour, tu en as besoin et que c'est que comme ça que tu peux pouvoir enseigner... C'est pas mauvais. Si c'est un moyen de parnassa indispensable pour pouvoir continuer à enseigner la Torah, c'est pas mauvais. Comme ça, le Kesef Mishnah dit, et certains disent que peut-être même le Rambam est d'accord dans une situation, c'est impossible autrement d'enseigner la Torah sans être rémunéré, que ce serait permis. En tout cas, je ressens ici que ces deux façons de traduire le passage, ce serait Rashi et Rosh. Rashi dit... Liot oderbo le istaker mimenu kedelechol. Il prend ça littéralement. Hein? C'est quoi? On a dit, n'étudie pas. Alta sem atara let gadel baem, alta sem kordom liot oder. C'est quoi liot oder? De pratiquement s'en servir comme gagne-pain? Non. Ni pour ton honneur, ni pour ton gagne-pain. Je suis pas sûr que Rashi va aussi loin, mais en tout cas, peut-être. Mais dans le Rosh, c'est clairement comme il a dit le Kesef Mishneh. Regardons le roche, il dit Velot ase atara l'itgadel baem. Chetil mod, kedel et ater v'itgadel. Et de même, velot kordom l'artor baem. Chetil mod, kedel chetie klimilartecha l'itparnesba. Que tu étudies dans cette finalité, c'est ça qui n'est pas bien. Mais maintenant, si tu as étudié et que tu ne peux pas faire autrement, tu en as besoin pour ta parnassa, ce n'est pas interdit. Ensuite, Amarava, Ravaïdi. Un homme, il a le droit de se faire connaître. Ça veut dire, il est rave un tel, mais quand il arrive d'un tel endroit, on ne sait pas que c'est lui. Il a le droit de se faire connaître pour obtenir l'avantage qu'il est en droit de d'attendre. Dirtiv, depuis sa jeunesse, il est Yaret Hashem. Ça, il faut voir là-bas, je n'ai pas vu le passage, je ne me rappelle pas, mais en tout cas, ça veut dire qu'il s'est présenté comme un tzaddik, un yaret, un craignant d'Hachem de haut niveau, ça veut dire aussi chacham, parce que en bour yarechet, si t'es yaret Hachem amash mineura, c'est que c'est en même temps chacham, donc il s'est démasqué. Donc on a le droit quand on ne nous connaît pas. Et la cachette de Rabbi Tarfon, bah, dans ce cas-là, ça cause problème avec qu'on avait Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il s'en est voulu pour s'être présenté, pour s'être fait valoir en tant que Rabbi Tarfon. Réponse de Rabbi Tarfon, Ashir Gadol Aya. C'est autre chose, Rabbi Tarfon. Lui, il était Ashir Gadol. Ve'avale les failles et bedamim, comme on l'a dit plus haut. Et donc, c'est pourquoi. Mais autrement, si on ne te connaît pas et tu dis ton nom, et en contrepartie, tu obtiens la faveur qu'un chacham peut attendre, c'est pas interdit. Rava Rami, à ce sujet précisément, Rava il oppose deux citations. Donc une fois c'est écrit que oui, tu peux te démasquer toi-même, tu te présentes. Et une fois c'est écrit que d'autres te fassent éloge et pas toi-même. Tu te fais jamais éloge. Que les autres te présentent. Oui, ça c'est Ravintel. Tu ne vas pas dire c'est moi le Ravintel. Réponse. Ça dépend, est-ce qu'on le connaît ou pas. Si tu es dans un endroit où on te connaît, tu n'as pas besoin de te faire de dire plus. S'il faut des éloges, laisse les autres dire les éloges sur toi, ne les dis pas. Mais si on ne te connaît pas, et que simplement en te faisant connaître, tu dis je suis Ravintel, et donc ça c'est permis. Amar Ravaravai dit Sharel et Tzurba Merabanan, les mêmes, Tzurba Merabanan, Anna, Charuli Tigray, Berecha. Un chacham, quand il vient dans un endroit, on ne le connaît pas, et il a maintenant une affaire à régler au Beddin, il a le droit de dire en premier, faites-moi passer pour régler mon Tigray, mon différend, mon litige. Dirti, vous venez David Kohanim Ayou. Les fils de David étaient Kohanim, que ça veut dire Kohanim. Ils étaient Chachamim surtout, ils n'étaient pas Kohanim. Mm. C'est pour dire Ma Kohen Otel Berosh, Av Talmin Chacham Otel Berosh. On a assimilé Talmin Chacham à Kohen pour dire. De même que Kohen, il passe en priorité, il a des faveurs en tant que Kohen, comme on va voir, le Chacham de même. Et donc, c'est un droit et une faveur pour un Chacham. On ne le connaît pas, il peut dire, Chacham, faites-moi cette faveur, je veux que mon affaire soit traitée au Bedin en priorité, avant les autres, même s'ils étaient là avant. C'est comme ça la règle. On fait priorité au Chacham. Surtout pour pas qu'il perde son temps, comme ça c'est marqué dans les Rishonim, que son temps est tellement précieux, il serait à l'étude maintenant. Si on le fait attendre, ce serait dommage de faire perdre du temps au Chacham. On a cette priorité accordée au Chacham, on ne le connaissait pas, il peut se présenter, je suis Chacham, un tel, et voilà qu'on me fasse passer en priorité. Mais Tana de Rabbi Shmuel. Alors maintenant, cette notion, d'où on la tient que le Kohen, il a des priorités. Ve Kohen Menalan, dirti, ve Kidashto. Tu dois le sanctifier, le Kohen, qui est le Chemel Okecha ou Makriv. Car c'est lui qui est au service, au Bet Amigdash, pour apporter tes korbanot. Ve Tana de Rabbi Shmuel, ve Kidashto, l'école d'Avar Shebikdusha. Dans la Braïta de Rabbi Shmuel, c'est commenté. Que veut dire le Kidashto, le Kohen, l'école d'Avar Shebikdusha? Tu lui donnes priorité, l'iftoir, Rishon, ça veut dire, il est le premier à monter à la Torah, par exemple. L'iftoir, c'est quand il y a plusieurs personnes qui vont se succéder, celui qui ouvre la séance, on va dire, qui commence le premier, qui monte à la Torah en premier, le Chacham, le Kohen. Les Varech et Rishon, quand on veut donner Zimoun, à qui on donne Zimoun en priorité? Au Kohen présent. L'Itol Mana Yafa Rishon, quand il s'agit de faire une répartition, on a partagé quelque chose qu'il faut répartir, qui choisit le premier? Le Kohen. Point. Amar Avaravai dit, Sharel et Letsuba Merabanan le Mimar, lo Yaivna Karga, un Chacham a le droit de dire, je ne donnerai pas, je ne payerai pas les taxes. Pourquoi je ne paye pas les taxes? Parce que c'est aussi une faveur qu'on a affranchi les Chachamim des taxes, dirtiv, comme on apprend un pasuk, Mineda Belo. Comment on lit ça? C'est l'araméen. C'est dans Sefer Daniel. Non, même pas dans Ezra. Alors. Mineda Belo Va'alach Lachalit Lemirme Alehom. C'est trois sortes de taxes, comme on va voir. que personne ne s'accorde l'autorité d'assujettir, eux, les Chachamim. C'était un décret du roi de l'époque que personne n'aille assujettir les Chachamim, l'Anshe Knesset Hagdola, à ce genre de taxes. Quels sont ces trois sortes de taxes? Alors, justement, c'est commenté tout de suite. Vama Rav Yehuda, Mineda zu manat amelech, Belo zu kesef gulgalta, Vealar zu arnona. Manat amelech, d'après le Roche, je crois que ça veut dire la taxe foncière. Katsuv, c'est une taxe fixe à la karka haute, par rapport aux terres. Après, il y a Gulgolet. Gulgolet, c'est une taxe qu'on paye pour chaque individu présent sur le territoire. Heler zu arnona. Halar zu arnona. Arnona, c'est plusieurs choses. Ou bien une taxe sur les animaux, si on fait de l'élevage, sur chaque autant de bêtes on a, autant il faut aussi prélever pour le roi. Voilà, trois sortes de taxes. Maintenant, faut voir. On avait vu plus haut qu'il y a un dîne de Dina de Malchuta Dina. Donc les taxes, on ne peut pas mentir. Dans les Nédarim, on avait dit pour s'affranchir de taxes. Oui, la Mishnah disait qu'on avait le droit. Mais la Gemara précisait quand il s'agit d'un faux percepteur. Percepteur autoproclamé. Ou bien quand c'est le percepteur au nom du pouvoir, mais qui abuse, qui fait à la tête du client, qui prend un peu plus par-ci ou par-là. Alors là, on peut essayer de lui échapper en jurant « Ce bien, il n'est pas à moi, c'est Beta Meler, c'est Teruma, c'est ceci, cela. » On avait vu dans cette Gemara que Dina de Malchuta Dina, que normalement, on ne peut pas mentir dans un éder pour s'affranchir, parce que c'est un devoir. C'est un devoir, pas en Eretz Israël, en route à la raison, comme ça te soit, il disait, et donner la raison, bref. Et là-bas, il y avait écrit dans le Ran que même si c'est un devoir, mais après, il y a un autre dîne que Mavriach, pardon, pas Mavriach, le dîne de Mavkia Alvato. L'alva du Gogne, on peut être Mavkia. Bon, sauf si Achilul Hashem. Mais on peut être Mavkia Alvato, ça veut dire même si je lui dois, je peux ne pas m'acquitter de ce que je lui dois. Je ne peux pas le voler, mais je peux m'acquitter de ce que je lui dois. Et donc, les taxes, même si je dois, je pourrais m'en acquitter. D'accord ? Après, dans le Bartanoura là-bas, on ne voyait pas comme ça. Faut voir. Faut voir quel est le dîne vraiment. Mais en tout cas, ici, quel est ce dîne spécifique qu'on est en train de nous faire entendre ? Je pense que ce n'est pas tellement la question. C'est surtout le fait qu'en tant que Chacham, il veut s'accorder cette faveur. Est-ce qu'il a le droit de se présenter en tant que Chacham ? C'est le sujet de la Sugya. On est dans la Sugya de Mishtamesh Bekitra Shel Torah. Eh bien, c'est ce que Rava nous dit. Il a le droit pour obtenir cette faveur qui est accordé au Chachamim, alors de faire valoir, je suis Chacham, donc vous devez m'acquitter des taxes. Ensuite, Vamar Ravai, Ravai dit, Sharei Lele Tsurba Meravanan, Lemimar Avda de Noura Ana. Un Chacham, il peut dire, je suis au service des Ovde Aesh, qui sont le Ovde Aesh, des idolâtres, qui servent le feu. Ils ont toutes sortes de cultes, bref, autour du feu. Et donc le prêtre de cet Avodazara, je suis son adjoint, ou pas son adjoint, disons, je suis son serviteur. S'il dit ça, alors il est automatiquement acquitté. Et il veut dire ça, il a le droit. Hein? Eux, ils exonèrent de taxes ce genre de personnes. Alors il se fait passer pour un tel, pour être exempt des taxes. Ana lo yevna karga. Je ne veux pas payer les taxes parce que je suis le serviteur du prêtre de la Vodazara. En bref, c'est à peu près ça. Il a le droit. Mais il y a deux problèmes ici. D'abord, il fait valoir qu'il est chacham. Mais ça, on a déjà dit que c'est permis pour éviter les taxes qu'il n'a pas à payer. Mais en plus, il y a un autre problème, c'est que ça résonne comme si il est directement ou indirectement lié à la Vodazara. Comment c'est possible? Réponse, Maïtama, l'avrou, kéaria, miné, kamar. Tout le monde est bien d'accord, tout le monde aura bien compris qu'il a dit ça juste pour éloigner un lion. On veut lui réclamer de l'argent qu'il n'a pas besoin de payer. Et lui, il a ce stratège de faire croire qu'il est le serviteur du prêtre du village, alors qu'il n'a rien à voir avec la Vodazara. Mais tout le monde sait très bien qu'un chacham n'a rien à voir avec la Vodazara. C'est juste une mise en scène pour éviter. C'est pourquoi c'est permis. Ravashi avaleyahu abba zavne le benoura. Ravashi, il avait une forêt. Et la forêt, c'est une exploitation de bois. Il l'a vendu à Ben Uran, d'après l'Oran, ça veut dire, à ces goyim qui sont ovdei haesh. Donc certainement, eux, ils ont besoin de bois pour leur avodazara. Amar les ravina les ravashi aïka lifnei iver, l'otiten mirshol. Mais il y a pourtant un principe de ne pas mettre une embûche devant un aveugle. Si tu donnes au nazir du vin, quand il veut le boire, et lui, il n'arrive pas à boire ce vin, eh bien, tu lui le tends, tu as fait un lave, lifnei iver, l'otiten mirshol. Ne mets pas d'embûche devant un aveugle. Et ce lave, c'est même vis-à-vis d'un goy, en ce qui le concerne. Il veut faire avodazara, tu lui rends possible. Ben, c'est lifnei iver. Après, est-ce que c'est ma mâche d'Ifné Hiver? Est-ce qu'il ne pouvait pas acheter du bois ailleurs? Parce que quand on peut acheter du bois ailleurs, ça ne s'appelle pas l'Ifné Hiver. Peut-être c'est as. Il faut voir, est-ce qu'il y a un autre issour après? Il faut voir dans les poskim, mais ça y a l'idée avéra. Est-ce qu'il y a l'idée avéra avec un goy? Tout ça, c'est des complications. Il faut voir. Mais en tout cas, Ravina prétend il y a un problème ici. Comment tu leur vends? Amarley lui répond Revetim la sakanitanu. Le rov des bois, c'est fait pour faire du feu. Naïvement, tout bonnement. C'est pour réchauffer la cheminée, pour cuisiner, c'est tout. Ah, eux, ils peuvent en faire un usage d'Avodazara, c'est pas mes affaires. Est-ce que j'ai besoin du rov, comme on l'entend ici? Alors, ils ont ramené que c'est Machloket Rishonim. Ici, clairement, on voit dans les Rishonim, qui commentent ici, qui sont sur la page, personne ne fait ressortir que c'est Dafka parce qu'il y a un rov. Parce que dans la Gemara ailleurs, on ressent pas qu'il y a besoin de rov. L'idée, c'est que c'est pas sûr. C'est pas sûr qu'ils vont l'utiliser pour Avodazara. Ça veut dire que l'objet en lui-même n'est pas fait spécifiquement pour une Avera. Tu lui mets pas dans la main un poison. Tu lui as pas mis un objet de Avera dans la main. Tu lui mets un objet indéfini et lui, il choisit d'en faire un objet d'Avodazara s'il veut. Ça te concerne pas. C'est ça l'idée. Et donc là, t'es pas, hein, c'est pas comme le vin, hein, dans les mains d'un nazir. Et là, c'est ça le yesod du Heter. Il faut savoir encore mieux affiner ce yesod, mais c'est à peu près ça. Mishnah. Ad akatsir, ad sheyatril ha'am liktor. Quand quelqu'un fait un vœu, par exemple, konam yain sheini toem, ad akatsir. C'est quoi ad akatsir? C'est jusqu'à que commencent les gens à moissonner. Mais quelle moisson? Ketsir kritim, avalo ketsir seorim. Eh bien, les moissons tout court, en général, c'est les moissons de blé. Ce n'est pas les moissons d'orge. Mais akolefim akom nidro. Mais tout dépend de l'endroit où on a fait son éder. Ça veut dire, si on est dans une région où on cultive le blé, c'est en général ça le plus souvent. Donc, katsir, c'est katsir du blé. L'orge et le blé, ce n'est pas la même période. Les moissons d'orge, c'est avant. Les moissons de blé. Les moissons d'orge, c'est Pessah. Les moissons de blé, c'est Shavuot, bref. Et donc, toi, tu es en référence au blé parce qu'en général, c'est ce qu'on a en tête. On pense à quoi? Moisson. Moisson, c'est moisson de blé. Mais si tu es dans une région où on cultive plutôt de l'orge, tu parles de moisson, même moisson d'orge. Le neder s'arrête à la moisson d'orge. Ensuite, Imaya Bahar, Bahar, Imaya Babika, Babika. Parce qu'il y a aussi une différence entre les collines ou la vallée. Sur les collines, les moissons sont plus précoces que dans la vallée. Et c'est ce qui fait qu'on peut se demander, il a dit jusqu'à la moisson, mais la moisson d'où? À la moisson de là où tu étais au moment où tu as fait ton vœu. Même si après tu as changé d'endroit. Par exemple, tu étais sur la montagne, tu as dit jusqu'à que commencent les moissons. Jusqu'aux moissons, c'est-à-dire jusqu'à que commencent les moissons. Il faudra attendre les moissons de la montagne. Et vraisemblablement, les montagnes, c'est plus tard que dans la vallée. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que dans la vallée, il y a plus d'eau. Sur les montagnes, l'eau ruisselle. Je ne sais pas. Mais en tout cas, disons que sur la montagne, c'est plus tard. Et alors, tu dis d'attendre les moissons de la montagne. Et même si après, tu es allé dans la vallée, tu dis, mais là, voilà, ils ont commencé à moissonner. Et alors? Mais toi, tu as fait ton éder quand tu étais à la montagne. Donc, tu as parlé de la moisson, comme on l'entend. Bistam. Qu'est-ce qu'on entend, Bistam? La moisson locale. C'est ça, la Shon Bene Adam. C'est ce qu'on entend, Bistam. Donc, tu as certainement pensé à, ou même sans rien penser, ça induit les moissons locales de la montagne. Ad akshamim, ad chiyu akshamim, ad chetered revi. Alors, là, il y a deux expressions. Ou bien il a fait son éder ad akshamim, ou bien ad chiyu akshamim, comme on a vu précédemment, ces deux types de formulations. Bien que d'habitude, quand on dit ad apessar, ça veut dire jusqu'à que commence Pessar. Hachiyé à Pessah, ça veut dire ad, que soit passé, soit révolu la fête de Pessah. Eh bien ici, non. L'un et l'autre, ça donne Hachetere de Reviashnia, jusqu'à que descendent les pluies. Lesquelles pluies? Celles qu'on appelle Reviashnia, on va revenir. Pour l'instant, ça veut dire jusqu'à que commence cette période de pluie. Le Ranoudi, c'est ça, Hachetere, jusqu'à que commence, et pas jusqu'à que soit révolu la période des pluies. Elle va durer bien plus longtemps. Là, c'est le début des pluies, au début de l'automne. Il y a trois Reviyas. Il y a la Reviya 1, 2, 3. On appelle les pluies, les premières pluies, on les appelle Reviya dans Maseret Ta'anit. Et Reviya veut dire que la pluie, bon, elle s'abat au sol. Il faut voir comment le Rani traduit. Mais en tout cas, les premières pluies de la saison. Pourquoi pas la toute première? Parce que ces trois pluies qu'on attend quand on a fait le semi en Eretz Israël, elles s'appellent comme ça. Il y a la 1, la 2, la 3. Et Bistam, les gens, ils pensent plus à la 2. Comme ça, il nous dit. Et donc, c'est pourquoi c'est la référence. Maintenant, on a bien compris que ça n'a pas d'importance qu'il ait dit « Ad Akshamim » ou « Ad Sheyu ». Pourquoi? Mais ben, ça relève du principe qu'on a vu dans la Mishnah précédente, que si le délai que j'ai fixé pour mon vœu, c'est un délai qui est « Nimshach », comme une durée, le katsir, le batsir, etc. Alors, on avait dit que comme c'est indéfini, il y a un katsir qui peut durer 4 semaines, il y en a un qui peut durer 6 semaines, c'est indéfini. Donc l'intention n'est pas jusqu'à que soit passée la période du katsir, c'est jusqu'à qu'arrive le katsir. Comme ça, le Ran avait expliqué le klal de la Mishnah précédente, mais c'est ce qu'on retrouve ici aussi. Que tu aies dit à Ada, Kshamim, ou à Chiyu, Geshamim. Geshamim, c'est une durée, c'est une période dans l'année. Yemot Kshamim. Alors c'est jusqu'à au début de cette période. Et en l'occurrence, c'est quoi le début qui marque le début de cette période? C'est Revia Rish Shnia. Ramachib Omen Gamel Omer Hachiagia Zmana Shel Revia. Jusqu'à qu'arrive le moment de la Revia Shnia. C'est pas besoin que la pluie tombe. Il y a un calendrier établi avec précision là-bas dans Maseret Ta'anit. Il y a même plusieurs chitot sur ça. Qu'est-ce que, à quand, à quelle date, en Cheshvan, Tishri Cheshvan, on attend les pluies? Première pluie de la saison quand on veut faire le semi. Il y a trois là-bas, comme je dis, un, deux, trois, et sur des dates, il y a deux, trois calendriers sur trois avis différents. Et la deuxième, c'est ça qu'on appelle ici Revia Shnia. Mais tu n'as pas besoin qu'il pleuve effectivement pour dire voilà, la pluie a commencé. Quand tu dis jusqu'à Geshamim, ça veut dire jusqu'au moment des pluies. C'est ça que tu entendais, pas nécessairement qu'il y ait réellement les pluies. C'est ce que précise Rabbi Shimon ben Gamliel. Parce que les pluies, tu ne les maîtrises pas, tu ne sais jamais si elles sont là ou elles ne sont pas là au rendez-vous. Et donc, c'est comme quelque chose d'indéfini. C'est pourquoi, d'après lui, ce n'est pas ça que tu as pris en repère, les pluies effectives. Tu as pris la référence de la date habituelle. Ensuite, maintenant, si tu as dit Hachéif, c'est quoi Akshamim? Jusqu'à que cessent les pluies. C'est la fin de la saison des pluies. C'est quand? Hachéif, c'est Nissan, Kulo, devrait Rabbi Meir. Tout Nissan, on peut encore espérer des pluies. Alors jusqu'à que soit révolu tout le mois de Nissan, Rabbi Domer, Hachiyavor, à Pessah, jusqu'à que Pessah soit révolu. Point. Tania dans une braïta noder, Adakaïts, Bagalil. Galil, c'est les hauteurs. C'est le nord d'Eret Israël, c'est montagneux. Donc on va dire sur les collines. Il a fait ce neder jusqu'au Adakaïts. Et donc là, c'est plus Katsir, c'est Kaïts, mais peu importe. Veyarad la Hamakim, il est descendu dans la vallée. Et dans la vallée, le Kaïts, il est plus précoce que dans les hauteurs. Afalpichegi Akaïts Bamakim, bien que dans les vallées, le Kaïts est déjà arrivé. Assur, son éder, il court toujours. Anchiagi Akaïts Bagalil. Pourquoi? C'est ça le chidouche qu'on avait dit dans la Mishnah. Enfin, la Mishnah ne l'a pas tellement fait ressortir. La Gemara ramène la Braïta pour commenter ainsi la Mishnah. Quand la Mishnah l'a dit à Kol Efi Makom Nidro, le Ran nous disait, ça se rapporte aussi sur Imayabar Bar Veimayababika Babika. Ça se rapporte sur la récha et sur la suite, sur blé, orge, mais également sur colline ou vallée. Tout dépend du makom où tu as fait ton neder. Si tu étais dans les hauteurs au moment où tu as fait le neder, donc là, à cet endroit, quand tu dis kaïts, tu dis katsir, tu l'entends au sens comme les gens l'entendent. Ben, le kaïts local, le katsir local. Tu te réfères pas au kaïts ou au katsir de la vallée. Maintenant, même si tu as voyagé en direction des hamakim, et que là-bas, c'est déjà le Kaïts ou le Katsir avant les collines, Ça ne va pas changer, ton éder, il court toujours. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. Chazak ou baruch.